CIO Radio, la web radio 100% dédiée aux directeurs des systèmes d'information et de la transformation digitale, co-animée par Alain Marty et Billy Ducourant, en partenariat avec TNP Consultant, accélérateur de performance. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de CIO Radio. Vous êtes 11 000 DSI, dirigeants d'entreprise et acteurs de la transformation digitale, abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et bien sûr, vous pouvez réagir sur notre compte LinkedIn CIO Radio TV. À mes côtés, pour co-animer cette émission, c'est Thierry Cartala. Bonjour Thierry.
Bonjour Billy.
Merci de nous recevoir chez vous. Vous êtes vice-président exécutif et managing partner de TNP Consultant. Aujourd'hui, notre invité, c'est Jean-Pierre Diris. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour Billy.
Merci d'être avec nous. Vous êtes coordinateur interministériel de Iris Square et de GAFSAT.com. Jean-Pierre, vous avez toujours eu la tête dans les étoiles, petit? Oui, j'ai bien l'impression. Hein.
J'ai toujours aimé la science, en fait. Hein, ça a commencé par les maths et la physique, j'aimais calculer. Et ça s'est prolongé par un peu la tête dans les étoiles, ce que vous dites. Mais vous savez que la tête dans les étoiles, c'est aussi beaucoup de calculs. En fait, on ne rêve pas tant que ça. Le spatial, c'est un rêve, mais il se calcule aussi.
Voilà.
C'est une part des choses qui s'équilibrent, en fait.
Vous êtes né dans les années 60, en 1966, à Tarbes, dans une belle région. Et non seulement vous étiez passionné par la science, mais la science était facile pour vous. Vous avez eu votre bac à 16 ans et demi. Vous avez passé un bac C, ensuite les classes préparatoires du côté de Toulouse. Et là, ça devient passionnant pour nous, vous rentrez à Supaéro. C'est quand même quelque chose d'assez magique. Vous aviez quel âge? À peine, juste après le bac, à peine quoi? 17 ans, 18 ans?
18 ans et des poussières, ouais.
18 ans. Vous étiez le petit poussin de la bande? Vous étiez le plus jeune?
Je ne suis pas allé chercher, mais j'étais parmi les plus jeunes.
Oui, les plus jeunes. Ouais. Pourquoi avoir fait le choix de cette école qui est très difficile et qui demande des compétences que vous aviez apparemment déjà en tête, hein? Pourquoi avoir fait ce choix?
Parce que le secteur de l'aéronautique et du spatial, ça m'intéressait. C'était une mise en pratique concrète de tout ce que j'avais pu étudier jusqu'alors. C'était surtout des équations, il faut bien le dire.
Bah oui.
Et là, enfin, on avait l'opportunité de faire des objets concrets, de les faire voler. Et puis, au-delà de ça, d'accéder à des milieux qui sont quand même un peu hostiles, hein, notamment le milieu spatial. On n'y met pas n'importe quoi, n'importe comment. Et bien, c'était ça le défi, finalement. Mm-hmm. C'est comment passer des maths à la réalité.
Ouais. Alors, je vais prendre une grande inspiration pour parler du diplôme que vous avez obtenu à Supaéro. Vous êtes sorti avec un diplôme d'ingénieur, ingénierie aérospatiale, aéronautique et astronautique de l'espace. Ça bluffe, hein, c'est beau sur une carte de visite. Mais je ne dis pas que les études vont s'arrêter, mais vous êtes d'une génération où, après ces diplômes, il y a le service militaire qui arrive. Vous l'avez fait où, votre service militaire?
Alors, je l'ai fait en scientifique du contingent, dans une école d'aéronautique. Et au préalable, j'ai fait mes classes, comme tout le monde, pour apprendre vraiment ce que c'est qu'un petit peu d'être militaire à Chartres, dans l'armée de l'air.
D'accord. Donc, vous êtes resté, même pendant ce service militaire, ça n'a pas été une cassure pour vous?
Non, du tout.
C'était un lien?
Moi, j'ai une fibre un peu pour les choses collectives et le sens de l'État. Et donc, je servais déjà un peu l'État, déjà, à travers ça.
Après le service militaire, après l'expérience que ce service vous a donnée et vos diplômes, votre premier boulot, vous y êtes encore, c'est le CNES. Comment vous êtes arrivé au CNES? Quelle a été votre première mission, tout jeune?
C'est assez original parce qu'en fait, je suis rentré au CNES, l'Agence Spatiale Française, pour faire des choses que pas grand monde ne connaît. Ce sont des ballons stratosphériques pour faire de la science. Donc, ce n'est pas des satellites à proprement parler. Mm-hmm. Ça vole un peu plus bas, vers 40 km, et ça fait des choses merveilleuses. Ça permet de faire de l'astronomie, de l'étude de l'atmosphère, avec des objets qui ne coûtent pas très cher, finalement.
Un ballon comme ça, ça peut aller à quelle vitesse?
Alors, c'est porté par le vent. Et le vent en altitude, ça va à 120-200 km/h.
Voilà. C'est passionnant.
Ça va vite, mais il n'y a presque pas d'air. Hein. Il y en a très peu. Donc, c'est vraiment très gros. Ça fait des tailles de terrain de foot, en fait. Voilà, ça porte des instruments relativement conséquents. Voilà. On a entendu parler récemment, vous vous souvenez certainement des ballons chinois qui étaient au-dessus des États-Unis. C'est ce type de ballon. Mais nous, on le faisait pour la science, on le faisait pas pour...
Pour l'espionnage.
Voilà.
Voilà. Alors, le CNES, vous y êtes toujours. Mais depuis le 23 octobre 2023, vous êtes nommé par Elisabeth Borne pour la fonction que vous occupez aujourd'hui, c'est-à-dire coordinateur interministériel. Et on va en parler de Iris Square. C'est un honneur, ça, pour vous, quand même, d'être nommé par la Première ministre.
Oui, c'est véritablement un honneur d'être nommé par l'État pour assumer cette fonction, représenter la France au sein des instances européennes, coordonner l'ensemble des ministères sur ce programme d'envergure. C'est véritablement un honneur que m'a fait la Première ministre de me nommer à cette fonction.
Alors, avant de laisser la parole à Thierry, c'est un honneur, mais c'est un projet qui est sur le moyen terme. Ça va durer combien de temps, ce projet ? Vous partez pour une sacrée aventure, là.
Oui, là, on est en train d'essayer de l'initialiser, mais par définition, c'est une infrastructure qui va délivrer de la connectivité et qui pourra en délivrer très longtemps en orbite. Donc, ça peut durer des décennies, en fait, hein, si ça marche bien.
D'accord. Alors, quand on voit votre parcours et quand vous nous parlez de ballons, de l'espace, moi, j'entends dans une de mes oreilles cette chanson de Sinatra, « Fly me to the moon ». Voilà. Et vous, je vous propose maintenant d'écouter, non pas Sinatra, mais les questions de Thierry. C'est pas mal non plus, je peux vous assurer.
Alors oui, mais bon, je serais effectivement moins romantique que Franck Sinatra.
Non, ça dépend. Ça dépend de vos questions.
On va faire du calcul, un peu de maths.
Allons-y.
Alors, oui, effectivement, merci de votre venue à la radio. La première question, effectivement, en tant que coordinateur, comment vous y prenez pour coordonner tous ces acteurs au sein, effectivement, de la sphère de l'État sur ces grands programmes, effectivement, spatiaux? Est-ce qu'il y a, je dirais, une méthode de travail particulière que vous avez développée au fil des années et qui vous permet, de coordonner toutes ces ingénieries, tous ces labos de recherche, toutes ces activités? Est-ce que vous avez mis en place de l'agile, par exemple? Ou est-ce que vous êtes plutôt sur d'autres démarches qui vous permettent effectivement de coordonner pour faire que ces grands programmes arrivent à l'heure et au budget?
C'est une excellente question. Donc la coordination interministérielle, sa fonction, c'est à la fois de représenter la France, c'est aussi de faire le consensus au sein des différents ministères. Donc la manière dont on fonctionne avec les différents ministères, dans lesquels j'ai des correspondants réguliers avec qui on se concerte, parce que chaque ministère va pousser un axe particulier sur ce programme. Eh bien, c'est une méthode classique qu'on utilise dans les grandes agences ou dans les grandes entreprises. C'est une méthode de type projet. On va se concerter régulièrement, on va challenger les positions et puis on va essayer ensuite d'exprimer la position de la France.
Et du coup, je ne sais pas quel est l'ordre de grandeur effectivement, des budgets qu'on consacre à ces systèmes effectivement, spatiaux. C'est assez conséquent. En plus, il y a beaucoup d'opérateurs privés qui interviennent. Est-ce que vous avez mis en place, des organes pour pouvoir les piloter, les coordonner? Est-ce que vous êtes plutôt dans des approches de délégation ou notamment plutôt des approches plutôt assez recentralisées pour pouvoir piloter certains aspects du programme qui sont particulièrement critiques?
Alors c'est un programme qui va être mené à l'échelle européenne, par la Commission européenne. Donc ce n'est pas nous, l'interministériel français, qui plaçons les contrats auprès des industriels. Et pour autant, il y a beaucoup d'industriels français qui sont concernés et intéressés par ce programme. Son ordre de grandeur, c'est à peu près une dizaine de milliards sur 12 ans, l'ordre de grandeur du programme, donc c'est assez conséquent. Mais les contrats sont placés par l'Union européenne, donc nous, notre rôle, c'est de porter la position de la France dans ces instances européennes, de soutenir l'implication des industriels français, bien sûr, d'utiliser bien sûr le service de cette nouvelle constellation.
Et alors, du coup, vous utilisez des outils particuliers, par exemple, pour coordonner tous ces acteurs de type PLM ou des outils d'ingénierie qui permettent, d'organiser. En ce moment, EDF construit des nouvelles générations de centrales nucléaires. Ils ont plein dans le sujet. Il faut en sorte. Alors, ils vont faire des petites séries, mais c'est comme des gros engins. On est aussi sur la même ampleur en termes de CAPEX. Hein. On est sur des dizaines de milliards hein, quand ça dérape pas un peu, malheureusement. Est-ce que il y a des leçons apprises de ces programmes européens, puisque l'ESA existe, et effectivement pour partager des méthodes de travail Alors, je ne sais pas si c'est à l'échelle de l'Europe des 27, mais ça ne va pas être simple, puisque tout le monde parle sa langue, et tout le monde a sa vision de la nomenclature du produit qu'on doit livrer.
Bah, écoutez, c'est vrai que c'est un bon point. Vu qu'on était en train d'essayer de passer à l'échelle dans le spatial, c'est-à-dire qu'avant, on faisait des satellites uniques, hein, pour aller sur la Lune, comme Billy l'a dit. Maintenant, on essaie de faire des constellations. Donc, on passe à une forme d'échelle et une forme de série, comme vous l'avez indiqué. Et pour ça, les industriels qui vont réaliser ça sont obligés de fabriquer en série. Alors, on parle de petites séries, c'est des centaines, c'est pas des millions. On n'est pas dans le smartphone ou dans la voiture.
Enfin, on réplique quand même.
Centaines, on réplique. Et donc, pour faire ça, il faut évidemment des outils industriels adaptés. Et les industriels qui sont en tête là-dessus, qui sont français, ont quand même acquis pas mal d'expérience liée à l'aéronautique. Vous savez que les industriels du spatial sont aussi souvent ceux de l'aéronautique. Et donc, il y a quand même une porosité entre leurs méthodes de travail, entre les deux domaines.
Oui, certains d'entre eux même font beaucoup de software.
Absolument. Et de plus en plus. Et de plus en plus dans les satellites, il y a du software. Hein. Dans tous les volets du satellite, y compris dans la partie mission, de plus en plus les satellites sont numériques, ils sont électriques, ils sont propulsés de manière électrique, ils sont numériques, donc il y a beaucoup de software dans ces satellites. Ils sont même software defined, c'est-à-dire qu'en plus on peut les reconfigurer en orbite.
Et est-ce qu'ils sont cyber defined aussi, vos satellites ?
Alors, c'est vraiment un bon point parce que, en fait, ce qu'on développe à l'échelle de l'Europe, c'est une constellation de connectivité sécurisée. Donc, effectivement, c'est ça la plus-value qu'on va avoir, c'est que ces liens-là seront sécurisés. Donc, on va mettre en place toute une infrastructure de sécurité pour s'assurer que les communications ne vont pas n'importe où, qu'elles sont contrôlées, etc. etc. Ce qui n'est pas toujours le cas dans les constellations commerciales.
Ce qui n'est pas toujours le cas, parce que ça coûte un peu d'argent et on a envie de livrer.
Et puis les exemples récents que vous avez pu entendre dans la presse, de conversations, de connexions écoutées par des tiers, c'est bien ça que ça va apporter une constellation qui est sécurisée, c'est qu'on maîtrisera nos data et nos communications.
Et du coup, tout ça, c'est pour quand ?
Alors, c'est pour avant la fin de la décennie. Ce qui est visé, c'est plutôt 2028-2029 pour déployer les premières centaines de satellites.
Bon, bah écoutez, on prend date.
Bien volontiers. On reviendra vous en parler bien volontiers.
Merci beaucoup Thierry. Je voudrais qu'on continue avec vous, Jean-Pierre. On sait que, en tant que coordinateur d'un projet européen aussi fastueux, vous aimez avoir des équipes autour de vous. Ça vous plaît énormément, pas pour les diriger, mais justement pour coordonner et que chacun donne le meilleur de soi. Et vous dites que dans la vie privée, vous ressentez la même chose sur une équipe, par exemple, de football. Vous adorez être en équipe. Et que ça vous a beaucoup servi dans le travail.
En effet, c'est vrai.
Il faut être solidaire, finalement.
Il faut être solidaire, il faut travailler ensemble. Il n'y a qu'un seul objectif, il n'y a qu'un seul ballon.
Oui, malheureusement.
Et on travaille ensemble sur le même objet, en fait. Et c'est vraiment important. C'est une forme de culture collective qui est vraiment fondamentale. Mmh. Il faut avancer ensemble. Il n'y a pas besoin d'avoir 11 vedettes dans une équipe. C'est vrai aussi dans toutes les équipes programmes. Il faut de la complémentarité et de l'énergie collective. C'est vraiment fondamental.
Mmh. Alors, ce football que vous aimez bien, est sur le terrain, mais à regarder également. Lorsque je vous ai demandé quelle équipe vous supportez, vous avez eu une réponse formidable. L'équipe de...
Ah ben, l'équipe de France.
Et ben voilà.
Mais, oui, mais c'est véritablement vrai.
C'est parce que vous venez d'une terre de rugby, c'est pour ça ? Vous n'avez pas d'équipe de foot ?
J'adore le foot, c'est comme ça. On est pas... Quelquefois, on a chacun nos originalités. Mmh. Mais l'équipe de France de foot, c'est un vrai miracle. Si on regarde les 20 dernières années, regardez comment elle est montée, comment c'est la meilleure équipe du monde aujourd'hui.
Mmh. Alors, moi, je vous souhaite une grande réussite, parce que c'est un projet qui va fédérer des choses qui, quelquefois, nous échappent, nous, Européens. Mais je pense que ça va être bénéfique et ça va solidifier encore l'Europe. Donc, j'ai envie de vous dire bonne route, bon satellite. Et comme l'a dit Thierry, ce serait bien qu'on se revoie dans quelques années pour faire le point.
Merci infiniment, Billy.
Mais c'est vous, c'est nous qui vous remercions parce que je sais que vous avez un emploi du temps qui est assez serré. Juste un mot, cette science qui vous anime depuis l'enfance. Est-ce que ça vous est arrivé, sûrement, de vous poser, grâce à la science, des questions sur l'origine du monde ?
Ah ben, évidemment. dès qu'on s'intéresse à la cosmologie, on s'y intéresse beaucoup dans le spatial. C'était tout le début de ma carrière. On s'intéresse au Big Bang.
Ouais.
Et le Big Bang, c'est la formation de l'univers et son évolution dans le temps. On mesure aussi l'âge de l'univers, 13,8 milliards d'années, grâce à des satellites. Donc tout ça, ça pose des questions de physique et parfois de métaphysique.
Ouais. Est-ce que, d'un mot comme ça, très naïf, est-ce que les satellites vous ont apporté des réponses à certaines questions sur la création de cet univers ? Pas encore ?
Les satellites, ils n'expliquent pas l'origine, ils expliquent le comment depuis le début.
Très bonne réponse. Merci beaucoup Jean-Pierre d'avoir répondu à notre invitation. Merci à Thierry pour ses questions et de nous recevoir chez lui. C'est la fin de ce numéro de CIO Radio. Retrouvez toute notre actualité sur notre compte LinkedIn. On se donne rendez-vous mercredi prochain à 14h précise pour accueillir un nouvel invité.
L'invité de la semaine de CIO Radio, une production B2B Radio en partenariat avec TNP Consultants, accélérateur de performance.